Merci, Madame la Présidente. Je dois remercier d'abord le Gender Med et aussi le professeur Laurent Sermet de m'avoir invité pour parler à propos d'une affaire qui est devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais on n'a pas une décision encore, c'est l'affaire Molla Sarli contre Grèce. Sans entrer dans les détails juridiques, en résumé, c'est une affaire qui concerne le statut de la loi islamique sacrée appliquée aux musulmans grecs et la requérante, Madame Molla Sarli, demande l'application du droit civil grec alors que la Cour de cassation grecque a affirmé que le seul droit applicable en l'espèce, c'est la charia, la loi islamique. Donc, l'affaire Molla Sarli se présente, à juste titre, il me semble, comme une affaire, comme un sujet d'égalité des sexes, mais elle fait la preuve d'une certaine exceptionnalité qui le dépasse. Donc, pour pouvoir saisir l'affaire dans toute son ampleur, il faudra se référer au contexte général, ce que je ferai aujourd'hui, de l'application controversée de ce qu'on nomme la charia, la loi islamique sacrée, et puis essayer d'en révéler les défis, non seulement juridiques, mais aussi sociaux et politiques. Donc, si vous me permettez, je ferai une approche juridique, positiviste, à la fois positiviste et critique, pour aboutir à quelques constats de philosophie politique, comme on est devant un public en Sciences Po. Tout d'abord, qu'on vient de s'interroger sur les statuts, sur les fondements juridiques de la charia. Donc, pour la Cour de cassation grecque, la loi islamique est en vérité une obligation internationale du pays, en raison de deux traités internationaux d'Athènes et de Lausanne. Néanmoins, la validité du traité d'Athènes, qui fait explicitement référence au Moufti, celui qui est compétent pour juger les affaires de la charia, est ouvertement nié par le Conseil d'État grec. Et alors, on sait que dans les droits des traités, c'est toujours le traité postérieur, à savoir celui de Lausanne qui doit s'imposer juridiquement. Mais le traité de Lausanne ne dit rien, ne fait aucune référence explicite à la charia, ni à la compétence juridictionnelle du Moufti. Le traité de Lausanne, c'est bon simplement déclarer le respect de coutumes et de la pratique religieuse, de la liberté de religion de la minorité. Donc, en vérité, la loi islamique est juridiquement une affaire uniquement de droit interne. C'est pourquoi elle peut être à tout moment et normalement abolie, sans porter atteinte à la hiérarchie des normes ou à la Constitution. Donc, l'application de la loi musulmane, c'est une exception grecque, car la Grèce est le seul pays du Conseil de l'Europe qui reconnaît juridiquement la charia. Même la Turquie l'a supprimée. La Turquie est un État laïque, ne l'oublions pas. Malgré tout, depuis, elle a supprimé la charia depuis 1926. Donc la Cour européenne des droits de l'homme a eu déjà l'occasion de se prononcer sur le statut de la charia dans l'affaire Refa Partizi contre la Turquie. Donc elle a précisé que l'application de la charia au sein de la communauté musulmane serait incompatible avec les principes fondamentaux de la démocratie, en s'appuyant entre autres sur la place réservée à la femme, sur la loi pénale qu'elle induit, sur le caractère stable et invariable de la religion qui la fonde. Donc, en gros, les principes tels que le pluralisme dans la participation politique ou l'évolution incessante de liberté publique seraient tout à fait étrangers à la charia. Donc, il serait difficile à la fois de se déclarer respectueux de la démocratie et des droits de l'homme et de soutenir un régime fondé sur la charia. Et il faut le souligner, dans l'affaire Refa Partizi, ce n'est pas en effet l'application de la charia qui est en cause, mais la perspective ou la possibilité même de son application, le fait que la charia est annoncée dans le programme d'un parti politique. La charia, on le connaît bien, ne satisfait guère les conditions d'un constitutionnalisme classique du point de vue droit constitutionnel. Elle ne peut pas être a priori interprétée. Il s'agit d'un texte qui n'évolue pas, ne s'adapte pas aux changements sociaux comme les textes constitutionnels. Donc, son application par les mouftis, qui est le juge, est verbale, imprévisible. Ces décisions sont enregistrées en langue ottomane et parfois elles sont même illisibles. Donc, la position que la loi islamique réserve aux femmes, en droit successoral et familial, c'est dans cet terrain qui s'applique la charia, est pour la plupart connue. On a la discrimination et la violation de l'égalité des sexes, qui est flagrante. Entre autres, la charia prévoit un droit restreint pour la fille, à savoir une partie inégale, la moitié en effet par rapport à celle du fils à l'héritage, l'interdiction uniquement pour la femme de se marier avec un non-musulman, le mariage des adolescents, sans aucune restriction et souvent par représentation. Je note également les droits du mari de divorcer en payant la clause de résiliation du mariage et sans aucune obligation alimentaire. Donc, il y a l'égalité des sexes à côté, où je vous avoue qu'il n'y a pas de nuance à vous présenter. Et puis, il y a la compétence du mufti, qui porte atteinte à une série de droits procéduraux, comme en l'espèce le droit à un procès équitable. Il n'y a pas un droit quelconque d'être entendu dans la charia, ni une règle précise de convocation des parties, ce qui s'avère particulièrement troublant pour les litiges en droit familial. On a des cas, par exemple, de décision de divorce à motif et sans convocation de la femme intéressée, ce qui a été finalement jugé par le tribunal civil contraire à l'ordre public grec. En outre, il n'y a aucun respect du droit à un recours effectif contre la décision éventuelle du mufti. Ces décisions sont soumises à un contrôle de constitutionnalité exercé par les tribunaux civils, un contrôle qui n'est pas un recours au sens classique du terme et qui reste malgré tout inopérant parce que toutes les décisions, la vaste majorité des décisions du mufti ne sont quasiment jamais annulées par le juge civil qui se borne à déclarer par respect à la particularité de la loi islamique leur constitutionnalité. Et d'autre part, quand la demande éventuelle par un membre de la minorité de l'application de la loi civile est contestée, la Cour civile se contente de renvoyer l'affaire à la compétence du mufti, comme dans le cas de Molla Sali, où la Cour de cassation a affirmé que le seul droit applicable si la validité du testament du défunt, de son mari, est le droit personnel musulman. Donc il ne faut pas en plus méconnaître le fait que les muftis, l'institution même du mufti, d'un représentant religieux chargé de compétences juridictionnelles, est très loin de satisfaire la notion de juge au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ou d'une constitution moderne. Donc tout récemment, on a eu en Grèce une nouvelle loi sur la charia, votée en décembre, quelques jours avant l'audience de l'affaire Molla Sali à Strasbourg. Et cette nouvelle loi la rend désormais absolument facultative et après l'accord explicite de deux parties. Donc elle prévoit aussi qu'un décret présidentiel consacrera une série de garanties procédurales telles qu'elles s'appliquent en droit civil pour rationaliser la compétence du mufti. Une sorte de modernisation de la charia. L'initiative législative, comme vous l'imaginez, c'est en effet une réponse précipitée à l'affaire Molla Sali dans le sens d'une défense du gouvernement grec devant la Cour. Parce qu'en vérité, la charia était toujours a priori facultative, et c'est d'une part son application, et d'autre part la jurisprudence contraire de la Cour de cassation en la matière qui la rendait obligatoire. Pourtant, à mon avis, même si l'application de la charia devient absolument facultative et en réalité minoritaire, la loi islamique contredit frontalement le régime constitutionnel des droits de l'homme, dont on sait qu'on ne pourrait pas s'en déroger, même volontairement. Il y a, par exemple, dans la constitution grecque, la constitution dispose explicitement que personne ne peut renoncer à ses droits constitutionnels, dont la protection, on le sait également, est une garantie à tous et non seulement à une majorité quelconque. En outre, la loi ne clarifie pas un autre point extrêmement sensible qui ne devrait pas en aucun sens être sous-estimé, car ainsi on a l'occasion de saisir les aspects plutôt sociopolitiques de la charia. Et je parle du mode de désignation du mufti. Donc l'État grec qui n'ose pas abolir la charia au nom d'une exceptionnalité religieuse et culturelle, et c'est lui, l'État, et plus précisément le ministre de l'Éducation, qui nomme librement les mufti. Alors que du point de vue de l'autodétermination de la minorité, c'est lui qui devrait être élu, comme vous l'imaginez, par les membres de la communauté. Donc vous voyez le paradoxe. On a, en gros, on maintient un régime de violation des droits de l'homme au nom de l'autonomie de la minorité, dont pourtant les muftis, qui est le chef, restent en soi hétéronomes, hétérodéterminés, pour des raisons de son contrôle politique. Donc la non-élection du mufti, il y a des gens qui disent en Grèce que est raisonnable en termes constitutionnels, car la constitution grecque ne reconnaît pas de juge élu, mais cet argument présuppose que le mufti est un juge au sens constitutionnel. Et en réalité, la situation s'avère encore plus floue, car la minorité choisit ses propres muftis. Les pseudo-muftis, ou soi-disant muftis, et ne reconnaît pas l'autorité, sauf des rares exceptions, de celui désigné par le ministre. Donc, c'est une situation assez compliquée, assez floue, et ça c'est pourquoi l'affaire Molla-Saly est une belle occasion, à la fois pour la Cour européenne des droits de l'homme et la Grèce, qui sera éventuellement obligée de se conformer à son arrêt, de clarifier les choses. Donc, en conclusion, permettez-moi de faire quelques réflexions de philosophie politique. Donc, l'affaire de la charia reproduit une tension, comme vous le savez, entre le communautarisme et le républicanisme, et enfin le libéralisme politique. Donc, il me semble qu'il ne s'agit pas ici simplement de constater la conformité d'une pratique religieuse avec la constitution, comme par exemple la dissimulation du visage ou avec la convention européenne des droits de l'homme, mais je ferai l'exercice quand même, comme si la charia s'agissait d'une question classique de la liberté de religion. Donc, dans ce cas, la question qui s'impose quand on a de tels conflits à résoudre est forcément la querelle entre le paternalisme et le libéralisme, à savoir si une pratique religieuse est contraire aux valeurs et droits libéraux, et ensuite si la loi, en raison d'une attente à l'ordre public, moral, ou à la dignité, à l'égalité de la femme, peut sanctionner ce comportement, malgré même de la volonté du sujet, comme dans le cas de la dissimulation du visage. C'est vrai, d'un point de vue libéral, que le consentement et la volonté individuelle restent, à bon sens à mon avis, le critère principal de son autonomie. Donc, il va de même pour sa liberté au sein d'un groupe, d'une minorité culturelle. Mais une fois que la volonté se vérifie, qu'elle soit une volonté authentique, on examinera si ce comportement, la charia ou la dissimulation du visage, menace l'ordre public ou viole les droits constitutionnels d'autrui. Si au terme d'un philosophe que vous connaissez, John Stuart Mill, s'il produit enfin un certain dommage matériel à l'intérêt des autres membres de la communauté, ce qui est évident, à mon avis, dans le cas de la charia. Donc, de l'autre point de vue communautariste, la reconnaissance des droits de minorité, par exemple dans la pensée de Sandel ou de Kim Lika, c'est un signe de reconnaissance de leur autonomie de volonté collective, qui doit se mettre en service de ce conseil en philosophie politique, non seulement de l'autonomie du groupe, mais aussi de l'autonomie individuelle. Donc il ne faut pas alors d'une façon paternaliste imposer au groupe nos valeurs, mais les laisser libres de s'adapter à la seule condition que le cœur du libéralisme politique ne soit pas violé, au moins d'une façon flagrante. Donc pourtant, la charia, à mon avis, contredit frontalement ce noyau dur de notre civilisation juridique. Et une troisième voie, une proposition de troisième voie pour résoudre ce conflit culturel ou religieux entre le libéralisme et le communautarisme, il y a la proposition, je schématise, mais bon, c'est John Rawls qui dit dans son ouvrage Le libéralisme politique, donc l'enjeu de cette opposition entre les groupes, il faut trouver un moyen pour les gérer. Et Rawls, il a développé l'idée d'un consensus par recoupement. C'est l'idée de overlapping consensus, c'est-à-dire un effort de conciliation et de communication de différentes cultures ou de différentes religions sur les fonds communs des valeurs, mais aussi des droits fondamentaux. Une façon à la fois pragmatique et rationnelle pour arriver à résoudre ce conflit. Donc néanmoins, si vous me permettez, dans le cas de la charia, il est quasiment illogique, constitutionnellement, de tolérer l'existence et la validité juridique d'un code religieux au sens d'un ordre juridique, au sens d'un soft law, comme on dit, qui est tout à fait contraire à la loi, à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme. Et au-delà de cette objection de principe, à savoir d'une confusion qui existe ici, normative, entre la religion et les droits, l'application de la charia sur les droits successoraux et familiales affecte gravement des relations intimes, mais des relations quand même, entre les individus. Elle ne règle pas la charia en comportement strictement individuel, comme par exemple les ports d'un signe religieux. Donc la charia, et je trouve qu'ici se pose un argument presque incontournable, n'est pas une affaire personnelle, en effet. Qu'on pourrait, par la sensibilité libérale, mettre sous la protection absolue de la sphère privée ou de l'autonomie individuelle. Elle est par excellence sociale et le législateur a tout droit d'intervenir et d'imposer ses propres règles pour la vie sociale, la protection des droits d'autrui, la protection de la femme, les dommages à l'ordre public, etc. Donc la loi islamique doit être... Il y a deux options, il y a deux solutions pour la loi islamique. Elle doit être soit interprétée d'une façon moderne, s'adapter elle-même aux exigences d'une société contemporaine et de son droit étatique, soit elle doit être totalement abolie. Ce qui paraît en effet la seule solution juridique qui pourrait résoudre toutes les ambiguïtés et le paradoxe que j'ai essayé de vous exposer. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, professeur Karaborkiris, de cette présentation qui a mis ce que les historiens diront. Il y a mis en valeur les questions des normes et pratiques. Le texte, comme le professeur Sommet a dit, le texte, droit, et ensuite la jurisprudence. Alors nous avons questions, nous avons le temps pour une, peut-être deux questions, un commentaire. Donc, c'est à vous. Aussi une question, une information, parce que le cours européen des droits de l'homme, absolument quelque chose de fondamental.
Et elle ne s'est jamais prononcée. Donc on ne sait pas.
On ne sait pas.
On
ne sait pas.
La tournure de sa décision, il me semble, notre collègue
va vous le dire. Il y a l'audience qui a devant Strasbourg qui a été faite, mais on n'a pas la décision.
Non. Peut-être une question. On a bien compris donc le sens de l'argumentation, soit une adaptation de la charia, soit une abolition. Et la question est la suivante, est-ce que la Cour peut prendre la responsabilité de dire que, par principe, par définition, dans son ensemble, dans sa globalité, la charia ne correspond pas à la Convention européenne des droits de l'homme? On a discuté de ça tout à l'heure.
Oui, c'était, on peut deviner, mais la Cour, en effet, peut-être la Cour aura des hésitations à se prononcer d'une façon définitive. À propos de la charia, une éventualité sera peut-être une décision de la Cour qui affirmera le statut facultatif de la charia. Parce qu'il y a le sujet de la série est aussi un sujet politique très sensible. La Cour, quand la Cour a affronté des sujets politiques et des questions politiques, on sait bien que par sa jurisprudence, qu'il fait preuve d'une certaine autolimitation juridique qui est logique, rationnelle. Donc, en Grèce, il y a des personnes qui pensent qui sont, par exemple, les avocats grecs qui sont spécialistes des droits des minorités, les deux représentants de Madame Mola Sali, et qui pensent que la Cour probablement va condamner
la charia.
La charia. Donc déjà, il s'est prononcé à propos de l'affaire Refa Partizi. Donc en termes idéologiques, en termes plus généraux, la charia est jugée incompatible avec la Convention européenne des droits de l'homme, même si elle n'a pas été appliquée. Donc maintenant, on a une application de la charia qui est jugée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et il y a d'autres personnes qui pensent que l'initiative gouvernementale, c'est-à-dire cette nouvelle loi qui a un peu à essayer de défendre une position de la Grèce et de rendre facultative la charia, sera un bon argument devant la Cour. Mais je vois. Pardon. C'est la dame qui veut poser une question.
Est-ce que d'autres instances ont été saisies, par exemple la CJUE, sur des questions de ce type? Est-ce qu'il y a déjà des arrêts rendus par d'autres cours? Non. C'est le seul contexte.
Au niveau européen, c'est le seul contexte.
Et dans d'autres régions du monde?
Ah oui.
Parce que peut peut-être poser la question d'une jurisprudence élargie à d'autres régions du monde.
Là, je ne sais pas si à d'autres pays du monde la question s'est posée.
C'est explosif quand même aussi. Excusez-moi,
mais dans le Conseil de l'Europe, c'est une exception.
Oui, c'est étonnant.
Mais il y a la communauté musulmane, par exemple, en Bulgarie, mais il n'y a pas la charia.
Ah, oui, j'ai pas dit.
Ce qui m'amène à la question aussi, justement, pour des raisons historiques, que je pose cette question, pourquoi pas en Bulgarie ou dans d'autres pays où la communauté musulmane et d'autres communautés par ailleurs sont présentes, pourquoi, alors je ne savais pas, alors je vous le disais, que pourquoi en Grèce, pourquoi cette décision de prendre en compte la charia aussi?
Parce que c'est le contexte qui est particulier. C'est le contexte des relations internationales entre la Grèce et la Turquie. Vous voyez.
Traité.
Donc, pour être honnête avec vous, et franchement, le problème, c'est que la Grèce maintient la charia pour pouvoir contrôler politiquement la minorité en désignant le moufti. Mm. C'est ce qui se passe. Alors que la Turquie exerce une sorte, comme on dit en droit international, un droit de regard sur la minorité musulmane. Ce n'est pas une minorité turque officiellement, c'est une minorité musulmane. Ce sont des citoyens grecs, mais musulmans. Donc, entre les deux parties, il y a un bras de fer particulier.